le magazine des Nations Unies.
Processus électoral en RDC, il en a encore été question cette semaine au Conseil de sécurité avec l'intervention de Leyla Zerougui. Pour la représentante spéciale, le niveau de confiance doit encore être consolidé. Dans cette édition, vous suivrez aussi les positions exprimées par le président de la CINCO et la porte-parole d'un mouvement de la société civile. Ce lundi 3 septembre, c'est la rentrée scolaire 2018-2019 en République démocratique du Congo, y compris dans les zones actuellement touchées par le virus Ebola. L'UNICEF, l'un des partenaires du gouvernement dans le secteur de l'enseignement, s'est mobilisé dans les préparatifs pour y garantir la réussite de cette rentrée. Des véhicules 4x4 pour faciliter le rapprochement entre les acteurs humanitaires et les populations déplacées du Kasaï central. C'est une dotation du Haut Commissariat pour les Nations Unies pour les réfugiés, ACR. Et voilà tout pour le sommaire de ce magazine.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Bonjour à tous. Nous le disions, le niveau de confiance doit encore être consolidé pour garantir la tenue de bonnes élections le 23 décembre et une passation pacifique du pouvoir. Leyla Zerougui l'a souligné lundi dernier dans une intervention adressée au Conseil de sécurité de l'ONU qui s'était encore penchée sur la situation politique et sécuritaire en République démocratique du Congo. Monseigneur Marcel Outembi, président de la Conférence épiscopale nationale du Congo, CINCO, et Madame Solange Luachiba, porte-parole de Rien sans les femmes, un mouvement associatif de la société civile, se sont exprimés. Un condensé avec vous, Honoré Missenga Kalala.
Dans sa déclaration au Conseil de sécurité, la chef de la MONUSCO a noté des progrès tangibles dans les préparatifs des prochaines échéances électorales. Le dépôt dans le délai prévu des candidatures à toutes ces échéances par l'ensemble des partis politiques et regroupements de la majorité présidentielle comme de l'opposition, le respect par le président Joseph Kabila de son engagement de ne pas se présenter pour un troisième mandat en désignant le candidat de la majorité à l'élection présidentielle, autant de pas franchis parmi d'autres dans le processus électoral de la RDC. Cependant, Leyla Zerougui a dit craindre que ce processus ne puisse finalement déboucher sur des contestations. L'absence du consensus sur l'utilisation de la machine à voter et la non-publication de la liste définitive du fichier électoral demeurent deux sujets de discorde majeurs, a notamment déclaré la représentante spéciale. Autre déclaration au Conseil de sécurité, c'est celle exprimée à la même occasion par Mgr Marcel Outembi. La Conférence épiscopale nationale du Congo, CINCO, au nom de laquelle il a parlé, considère aussi que le dépôt des candidatures est un pas significatif. Mais pour cette institution, à laisser entendre le prélat, il est impératif de résoudre le plus rapidement possible la double problématique du fichier électoral et de l'utilisation ou non de la machine à voter. La mise en œuvre des mesures de décrispation de l'accord de la Saint-Sylvestre est également pour la CINCO une condition de la réussite de ce processus électoral, a ajouté Mgr Outembi. Enfin, le mouvement associatif a aussi fait entendre sa voix par l'entremise de Mme Solange Luachiga Foura, porte-parole de Rien sans les femmes, une organisation de la société civile. Tout en regrettant le fait que la proportion des candidatures féminines pour les prochaines élections n'ait pas évolué depuis 2011, Mme Luachiga a demandé au Conseil de sécurité d'inciter le gouvernement congolais à garantir des élections apaisées et crédibles dans le respect de la résolution 1325, de réactiver le soutien logistique de la MONUSCO aux prochaines échéances et d'appuyer son mouvement pour une mobilisation des femmes congolaises dans ce processus électoral.
Fini les vacances. C'est en principe ce lundi 3 septembre que s'ouvre la nouvelle année scolaire sur toute l'étendue du pays, l'année scolaire 2018-2019, et 422 500 enfants des zones affectées par l'épidémie de la maladie à virus Ebola à Beni et en Ituri devront également répondre à ce rendez-vous. En appui aux efforts du gouvernement, le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance, l'UNICEF, s'y est préparé. Alors, de quelle manière l'UNICEF a préparé la rentrée scolaire de ce lundi pour les enfants des zones affectées par Ebola, Honoré Missenga Kalala.
Il faut d'abord signaler que, selon un communiqué de l'UNICEF rendu public en début de semaine, plus de 82 500 enfants pour 250 écoles des zones touchées par le virus Ebola devront faire aussi leur rentrée des classes. Alors, puisqu'il y a la menace d'Ebola, l'agence onusienne va se concentrer dans ses interventions pour la nouvelle rentrée scolaire sur le volet sanitaire, notamment par le renforcement de ses programmes d'éducation, de santé, d'eau ainsi que d'assainissement et d'hygiène. Objectif, rendre les écoles ciblées un environnement d'apprentissage sûr pour les enfants et leurs enseignants. Concrètement, l'UNICEF prévoit que les directeurs d'école et les enseignants, environ 1750, puissent recevoir une formation sur la prévention et la protection contre Ebola et sur la manière d'éduquer les enfants sur les bonnes pratiques d'hygiène. Et pour lier la théorie à la pratique, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance a également prévu de distribuer aux écoles concernées des thermomètres laser, des unités de lavage des mains, ainsi que des mégaphones et des affiches de prévention comme matériel didactique de sensibilisation. Cette sensibilisation devra aussi toucher, comme le prévoit également la même agence, les comités des parents et les autorités locales.
Autre agence onusienne, autre action, nous sommes à Kananga où le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, ACER, a doté ses partenaires d'un charroi automobile et c'est dans le cadre de la mise en œuvre de ses actions dans la province du Kasaï central. Il s'agit des véhicules 4x4 tout-terrain, oui, Land Cruiser, qui ont été remis mercredi 29 août à trois organisations non gouvernementales, l'ONG, NRC, Action Aid et War Child. La chef de la sous-délégation intérimaire du ACER Kananga, Sophie Omadiang, a expliqué le bien fondé de cette dotation et c'est au micro de François Kadima.
Pendant les déplacements, les populations ont connu beaucoup d'atrocités et des violations de leurs droits. En tant que leader en matière de protection, on se doit d'apporter des réponses par rapport aux besoins de ces populations rendues vulnérables du fait de ces conflits. Et dans ce sens, donc, pour arriver et toucher, renforcer les interventions nous menons en œuvre avec nos partenaires sur le terrain, le HCR, dans toutes les opérations, a l'habitude de renforcer les capacités de ses partenaires qui sont déjà présents sur le terrain et leur permettre de se rapprocher, nous, auprès des populations qui sont pour la plupart dans les zones les plus reculées. Le HCR renforce les capacités en leur offrant des voitures 4x4 pour leur permettre de se déplacer, d'aller vers ces populations, d'identifier et de documenter les problèmes de protection afin d'apporter une réponse efficace.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
La République démocratique du Congo pourra se doter des centrales hydroélectriques à petite échelle à travers le pays, au profit du monde rural. C'est en tout cas l'objectif du projet MCH, un mini et micro centrale hydroélectrique lancé par le gouvernement avec l'appui du Programme des Nations Unies pour le Développement PNUD et du Fonds pour l'Environnement Mondial. Un atelier de formation a réuni les cadres nationaux et locaux du secteur de l'énergie à Kinshasa du 20 au 22 août dernier pour réfléchir sur ce projet. Jules Kikanda, coordonnateur du projet MCH, s'est entretenu avec Honoré Missenga Kialala. Suivez.
Bonjour monsieur.
Bonjour messieurs les journalistes. Je suis monsieur Jules Kikanda. Je suis ingénieur civil électromécanicien à finalité spécialisée en énergie. Je suis le coordonnateur national du projet promotion des mini et micro centrales hydroélectriques en RDC.
En quoi consiste ce projet ? Concrètement,
ce projet, comme son intitulé l'indique, c'est un projet de promotion des mini et micro centrales hydroélectriques. S'il faut y aller par une petite histoire, nous sommes en train de vouloir promouvoir les mini et micro centrales hydroélectriques parce que la configuration de la population du Congo, c'est plus de 65% en milieu rural. Il y a des opportunités à saisir. Dans tous les territoires de la RDC, il y a des rivières. Alors, si nous attendons des grosses installations, des grandes centrales, peut-être cela peut coûter très très cher. Or, vous savez qu'en termes d'électrification, notre pays est encore en retard. Et en milieu rural, c'est moins d'1% du taux d'accès. C'est pourquoi le gouvernement de la RDC, avec ses partenaires comme les PNUD et les Fonds pour l'Environnement Mondial, ont financé ce projet pour essayer de promouvoir l'électrification des milieux ruraux pour voir comment atteindre les objectifs de l'accès pour tous à l'énergie.
Est-ce qu'il y a déjà des sites pilotes qui sont déjà envisagés?
Effectivement, pas qui sont déjà envisagés, mais que nous avons déjà commencé. Parce que jusque-là, il y a des études de faisabilité pour certains sites pilotes qui sont déjà lancés. Par exemple, les sites de Nganza, au Kasaï central. On a déjà finalisé les études de faisabilité. Nous sommes en train de mobiliser les partenaires pour trouver les fonds pour la construction de la centrale. Il y a même Langalanga dans la province de la Mongala. Les études sont tellement avancées. D'ici là, peut-être on va nous remettre les rapports. Il y a aussi les sites de Mushuva, au site Kivu, pour électrifier la cité de Miti. Donc jusque-là, nous en sommes à une quinzaine de sites pilotes pour lesquels les études sont menées et pour lesquels le gouvernement de la RDC et ses partenaires sont en train de mobiliser les financements pour la construction des unités de production.
Oui, alors pour la construction de ces petites unités de production d'électricité, je pense qu'on va devoir recourir au secteur privé.
Effectivement, c'est l'idée même du projet. Vous l'avez suivi dans les discours de son Excellence Monsieur le Ministre, mais aussi du représentant du directeur pays du PNUD. Ils l'ont dit, l'idée c'est vraiment le partenariat public-privé. Les évaluations sont déjà faites. et pour construire à la fois dans tous les territoires de la RDC des micro-centrales, c'est des milliards et pour le moment peut-être mobiliser tous les fonds à la fois par le gouvernement, ça peut être un peu difficile. C'est pourquoi le moyen le plus rapide, c'est d'associer les privés. Et l'opportunité à saisir là-bas, c'est que le secteur de l'électricité est déjà libéralisé, ouvert au public.
Du moins sur le plan de la loi.
Sur le plan de la loi, mais sur le plan pratique aussi, parce qu'il y a des provinces qui sont tellement avancées. Par exemple, au Nord Kivu, il y a déjà des opérateurs privés qui ont déjà mis en place leurs unités de production et qui sont en train de commercialiser l'électricité. Parce que la loi est déjà promulguée. Il y a même deux mesures d'application, des décrets. Le décret portant création, organisation et fonctionnement des deux agences publiques, AR et ANSER, autorité de régulation du secteur. Mais jusque-là, vous avez raison, il y a d'autres textes de loi, des arrêtés ministériels, interministériels, que nous attendons la promulgation pour que le secteur puisse évoluer et que les privés puissent vraiment se jeter.
Oui, l'inconvénient peut-être avec les privés, c'est que quand les privés s'y mettent, l'accès à l'électricité risque d'être limité aussi.
On a pensé à tout cela. Malheureusement, nous sommes en phase de démarrage du projet, mais dans le cadre du projet, nous sommes en train de réfléchir sur comment mettre en place une phase pilote d'un système qu'on appelle OBA, Output-Based Aid. C'est une forme de subvention, l'aide basée sur les résultats. Au fait, on est très conscient que le pouvoir d'achat de la population n'est pas vraiment très formé. Dans tous les cas, comme nous sommes en train de mobiliser le secteur privé, dans tous les cas, il faut que les opérateurs, les investisseurs se retrouvent. Excusez-moi le terme, c'est retrouvé, vous comprenez. Et dans ce cas, pour ne pas être découragé, pour des tarifs non rémunérateurs, c'est prévu pour la loi qui est des subventions. C'est pourquoi on vous parle de l'autorité de régulation et de l'agence pour la promotion de l'électrification rurale. Ils auront des fonds, ils auront des bailleurs. Et leur rôle, c'est de voir comment subventionner ces opérateurs qui ont quand même pris le risque d'électrifier des populations qui n'ont pas de moyens de payer. On va voir toujours, parce que suivant la loi, les tarifs est négocié entre les ETD et l'opérateur. Et lorsque l'opérateur se retrouve lésé, il peut faire une demande pour qu'il soit subventionné pour compenser les tarifs non rémunérateurs. En tout cas, la loi est complète.
Après, le rôle concret du PNUD dans tous ces projets?
Le PNUD, vous le savez, c'est un partenaire développement. Accompagne le gouvernement dans tous ces projets là-bas. Et comme vous savez, c'est for all, c'est Sustainable Energy for All, l'énergie durable pour tous. C'est une initiative, disons, en 2030, normalement, notre pays qui a adhéré à cette initiative depuis 2012, en 2030, normalement, tous les Congolais doivent avoir accès à l'électricité. Ce sont les objectifs de développement durable. Et le Congo a déjà souscrit, a déjà adhéré à cette initiative. Le PNUD, c'est un partenaire de développement qui accompagne le gouvernement dans la réalisation de ces objectifs de développement durable.
Merci beaucoup, monsieur le coordonnateur.
C'est moi qui vous remercie, monsieur le journaliste.
En plus bref, d'abord cette nouvelle de la reprise du procès du meurtre des experts de l'ONU et de leurs accompagnateurs en mars 2017. C'était dans la province du Kasaï central. L'audience au tribunal militaire garnison de Kananga lundi dernier était essentiellement consacrée à l'audition de Constantin Chidime, dit Boulaboula, chef du village Monlieu-Moussouila. C'est dans ce village que les deux experts onusiens ont été tués. Boulaboula comparaissait pour la première fois. Après plusieurs mois de suspension, ce procès a repris avec la comparution de deux personnes, dont le chef du village, considéré par l'accusation comme parmi les principaux acteurs du double meurtre des experts de l'ONU et de leurs accompagnateurs. Allons cette fois-ci dans le nord du pays, où la Commission nationale pour les réfugiés CNR et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ACER continuent l'opération de vérification physique et d'identification des réfugiés centrafricains vivant dans les camps dans les deux provinces du Nord et Sud Ubangi. D'une durée de plus ou moins 2 mois, cette opération a démarré en août dernier. Elle concerne les réfugiés centrafricains des camps de Inke, Bili, Boyabou et Molé. Après la vérification physique, il est remis à chaque réfugié âgé de 12 ans ou plus une carte d'identification individuelle valable pour 2 ans renouvelable. Ce document d'identité permet de renforcer la protection individuelle et collective des réfugiés en RDC. Elle facilite également leur mobilité et leur identification par les agences étatiques ainsi que l'accès aux opérations bancaires. Enfin, le 17 septembre prochain, c'est à cette date que sera prise définitivement la décision dans la seconde affaire opposant à la Cour pénale internationale Jean-Pierre Bemba Gombo, Aimé Kilolo Moussamba et Jean-Jacques Manguinda Kabongo. La CPI l'a annoncé mercredi dernier dans un communiqué de presse. Le sénateur Bemba et les deux autres ont été reconnus coupables de plusieurs atteintes à l'administration de la justice en lien avec la subornation des témoins et la sollicitation de faux témoignages de témoins de la défense dans cette seconde affaire le concernant devant la CPI. À ce stade, personne ne connaît la teneur de la peine qui sera infligée à l'ancien vice-président de la République. C'est en tout cas ce qu'a laissé entendre Patrick Tchibouhi, responsable du bureau de sensibilisation de la CPI en République démocratique du Congo.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
Il y a deux semaines, le docteur Céline Hunton, représentant du Fonds des Nations Unies pour la population, FNUAP, était l'invité du magazine des Nations Unies en marge de la Journée mondiale de l'aide humanitaire. Ce dimanche, le MAGUEN revient encore sur lui, cette fois-ci à partir de Béni, en Nord-Kivu. Les FNUAP a réhabilité cette semaine et doté en médicaments les maternités des zones de santé affectées par la maladie à virus Ebola à Béni et en Ituri. C'est de cet engagement de son agence que le docteur Céline Hunton parle dans l'entretien qu'il a accordé à Sekombi Katondolo.
Senen Houton, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes à Béni. L'UNFPA vient de faire une dotation. Peut-on savoir de quelle dotation s'agit-il effectivement?
Laissez-moi vous dire d'abord que le Fonds des Nations Unies pour la population est très heureux de participer à la réponse au plan de réponse national pour Ebola à Béni, dans le nord Kivu, mais aussi dans l'Ituri, en investissant d'abord au niveau des maternités, parce que nous avons eu des agents de santé qui ont été contaminés, et l'épicentre de l'épidémie, cette fois-ci, c'est dans les centres de santé. Donc nous allons faire de la réfection de l'équipement des maternités, mais nous venons aussi, comme vous venez de le dire, de faire un don important de matériel médico-chirurgical, parce que justement, il faut couper aussi la chaîne de transmission, même dans les formations sanitaires. Alors, ces matériels médico-chirurgicaux, de quoi s'agit-il? Il s'agit de 25 kits d'accouchement hygiénique individuel qui peuvent suffire pour 5000 accouchements dans les différentes formations sanitaires. Il s'agit aussi de kits de prise en charge des infections sexuellement transmissibles. Il s'agit également de kits de prise en charge post-viol, mais il s'agit aussi et surtout de kits pour la prise en charge chirurgicale. Lorsqu'une femme, par exemple, a besoin d'une césarienne dans les hôpitaux, tous les matériels nécessaires pour les chirurgiens et pour toute l'équipe chirurgicale, nous venons d'en donner, et aussi des kits de sécurité transfusionnelle. C'est-à-dire que si quelqu'un a besoin de sang, parce que souvent la maladie à Ebola, c'est une maladie hémorragique, hein, et aussi, donc quand ça survient, parfois on a besoin de sang pour donner aux patients. Et dans la plupart des cas, il faut prendre du sang chez des parents ou la communauté. Il faut pouvoir tester ce sang pour savoir qu'il n'y a pas de VIH dedans, il n'y a pas des hépatites dedans, etc. Donc, nous amenons ce kit de sécurité transfusionnelle à la disposition des centres de santé.
Et combien de centres de santé sont visés par ce programme?
Ce programme va couvrir d'abord 4 hôpitaux généraux, mais va couvrir aussi une vingtaine de centres de santé. Dans Béni principalement, mais aussi à Makiki, parce que nous savons que c'est aussi une zone atteinte, la zone sanitaire atteinte à la frontière en Ituri avec justement le Nord Kivu.
Et peut-on savoir si ces médicaments sera donné gratuitement ou les patients vont payer pour avoir accès à tout ça?
Ces médicaments contribuent à deux choses. D'abord, la gratuité décrétée par le gouvernement, et donc c'est une façon de contribuer en apportant des intrants pour que cette politique de gratuité puisse continuer au-delà même des 3 mois que nous sommes en train d'expérimenter. Mais au-delà de ça, ces matériels seront utilisés, c'est des matériaux qui peuvent être utilisés pendant des années. Donc c'est une façon d'investir dans la résilience et dans le renforcement général du plateau technique. Donc vraiment, c'est quelque chose. Il y a des instruments là qui peuvent être utilisés pendant 5 ans. Cela va au-delà de cette épidémie.
On parle aussi carrément de la rénovation de certaines maternités. Est-ce que c'est le cas?
Tout à fait. Nous allons réfectionner la maternité de l'hôpital général de référence de Béni. Nous allons aussi réfectionner la maternité du centre de référence de Manguina. Et quand nous parlons de réfection, il s'agit non seulement de rafraîchir les murs, mais de faire toute la maçonnerie, les plafonds qui suintent parfois, les lits d'hospitalisation, les tables d'accouchement et surtout des échographes et des couveuses. Parce qu'il faut avoir du matériel pour pouvoir identifier s'il y a de la souffrance du bébé dans le ventre de la maman. Et parfois, nous avons des prématurés, il va falloir pouvoir quand même les garder dans des environnements qu'il faut pour assurer leur suivi.
Peut-être un dernier mot avant de conclure cet entretien.
C'est vraiment une satisfaction pour moi. Ça fait 4 jours que je suis en train de passer à Béni et donc je suis en train à la fin de ma visite ici et je suis très heureux de constater un leadership gagnant du gouvernement. On voit très bien que toutes les actions et les acteurs sont très bien coordonnés. Ça c'est le premier. Le deuxième, nous avons encore des défis importants. Mais avec l'appui de tous, nous allons les relever. Et d'ailleurs, je voudrais terminer par ce mot de satisfaction parce que hier, j'ai participé moi-même à la remise de certificat de sortie à des patients guéris. 4 patients à Manguina, dont 3 agents de santé. C'est une note d'espoir pour dire à la population, sortez tôt. Venez rapidement vers les centres de santé. Si vous avez des symptômes, si vous êtes un cas suspect, il y a des protocoles thérapeutiques, il y a tout ce qu'il faut et vous pouvez aussi guérir de Ebola.
Monsieur Senen Houtan, la Radio Kapi vous remercie.
La nouvelle de province nous emmène à Béni au Nord Kivu avec cette annonce de l'OMS en rapport avec la maladie à virus Ebola. En mission dans cette ville, Monsieur Tariq Yasharavitch, porte-parole de l'Organisation mondiale de la santé, a annoncé l'introduction de 5 nouveaux médicaments approuvés en plus du vaccin. Ces vaccins sont donc porteurs d'espoir, non seulement pour la communauté victime de cette épidémie, mais aussi pour toute la communauté scientifique, a laissé entendre le porte-parole de l'OMS. Suivez Monsieur Tariq Yasharavitch au micro de Christian.
On se réjouit tous en fait que pour la première fois qu'on peut administrer ces nouveaux traitements à des patients. Il s'agit de 5 molécules différentes, 3 qui agissent sur le système d'anticorps et 2 qui sont des médicaments antiviraux. Ces 5 molécules sont approuvées par le comité scientifique et le comité éthique de la République démocratique du Congo pour l'usage sur la base compassionnelle. Et donc voilà, il y a déjà une quinzaine de patients qui ont reçu 2 de ces 5 molécules approuvées. Tous les 5 sont disponibles. Donc, c'est ces nouveaux outils qui sont ajoutés au vaccin qui a été déjà développé et qui présentent non seulement un espoir pour les patients et la communauté, mais aussi c'est un grand pas en avant en ce qui est l'équité d'accès. Maintenant, on peut dire que les patients, où ils soient, dans n'importe quel pays, ont accès à ce que la science a produit de mieux pour traiter Ebola.
Magazine des Nations Unies, question aux Nations Unies.
Est-ce un mariage bizarre entre le gouvernement de la RDC et la MONUSCO? Écoutez plutôt cette question d'un confrère posée le 22 août dernier au cours de la conférence de presse des Nations Unies et bien évidemment la réponse de la porte-parole de la MONUSCO, Florence Marchal.
Amen Dimoni pour Numérique Télévision. Madame Marchal, visite manquée Antonio Guterres. Le gouvernement dit, pas besoin d'aide logistique, je m'occupe de ma logistique. Ce n'est pas là un mariage un peu bizarre entre le gouvernement et la MONUSCO. Vous semblez ne pas accepter ça. Mais vous êtes face à un partenaire qui est froid envers vous. Pourquoi vous n'arrêtez pas de dire que ça va, tout va bien?
Vous voyez le verre à moitié vide et pardonnez-moi, moi je vais voir le verre à moitié plein. On est chacun dans son rôle. On n'a pas fait de publicité autour de ça, mais il y a quelques jours, l'arrangement technique entre la mission et le ministère de la Défense pour le soutien au FRDC a été prolongé, ce qui montre bien qu'il existe une collaboration au quotidien. Minime, une collaboration en ce qui concerne un pan entier de la mise en œuvre de la mission, qui est la neutralisation des groupes armés. J'ai pas la même lecture que vous. Deuxièmement, toujours en ce qui concerne ce mandat, on y a fait allusion. Une fois encore, nous ne sommes pas imposés. Il y a tout le travail qui est fait pour juguler l'épidémie d'Ebola. Il y a tout le travail qui se fait dans les prisons. Il y a tout le travail qui se fait dans les cours de justice afin de lutter contre l'impunité. Il y a le travail des collègues des droits de l'homme avec la formation tous les mois. Le mois dernier, il y a plus de 2000 personnes qui ont été formées aux notions de base des droits de l'homme, à la protection, à la promotion des droits de l'homme, y compris des personnes personnel des ministères. Donc le travail se fait et ensuite je vous rappelle que nous n'avons pas de mandat exécutif, que nous sommes dans un État souverain et que nous sommes une fois encore ici dans le cadre certes d'un mandat du Conseil de sécurité mais à l'invitation des autorités congolaises.
Magazine des Nations Unies. Portrait du jour.
Je m'appelle Jeff Ngoyi Mulonda, marié à Anisson Pomwamba, père d'une famille, deux filles et deux garçons. Ma formation commence par mes études primaires à l'école Saint-Bavon à Kamina, dans l'actuelle province du Haut-Lomami, où je suis né et où j'ai grandi. Après mes études primaires, je suis allé aux humanités littéraires, latin philo, à l'Institut Mapinduzi, toujours à Kamina, d'où je suis sorti diplômé d'État vers les années 1990. Après, je suis resté à Kamina pour travailler à la direction d'exploitation de la SNCZ, aujourd'hui SNCC, à Kamina. J'étais chef du protocole et des relations publiques. J'ai travaillé aussi à la Brasimba de Kamina. C'est vers les années 1991-92 que je suis arrivé à Kinshasa avec pour projet d'études faire le droit à l'UNIKIN. Mais je suis arrivé au moment où il y avait des années blanches, il y avait des grèves, il y avait des étudiants qu'on renvoyait des universités. Alors, il ne fallait pas continuer à chômer. Je suis allé passer un test à l'ISTI à l'époque. J'ai réussi à ce test. Et je suis sorti de l'IFASIC licencié en sciences de l'information et de la communication. Déjà en deuxième graduat, j'ai commencé à travailler dans la presse. D'abord comme journaliste stagiaire en 1995 au journal Image, un hebdomadaire qui appartenait à Philippe Massé-Gabio. Et Image m'avait accrédité auprès du HCRPT, le Haut Conseil de la République Parlement des Transitions. De Image, je suis parti dans plusieurs organes de presse. Je cite quand même les plus importants qui m'ont marqué. L'Ouragan. De là, j'écrivais dans un journal satirique qui paraissait à l'improviste à l'époque, Grognon. De Grognon, je suis allé au journal Le Phare comme stagiaire professionnel. Après le stage professionnel, j'ai été retenu comme journaliste pigiste au Phare. Et Karl Nawege va recruter parmi les étudiants qu'il trouvait fort dans le cours de presse écrite, comme il était notre enseignant de presse écrite. Il va me recruter comme journaliste dans son journal Liberté qui venait de naître. Et je suis allé au journal Salongo. Pendant que j'étais au journal Salongo, j'écrivais en même temps au potentiel. Puis j'ai décidé, comme le cumul pesait très lourd sur moi, il fallait choisir entre Salong et le potentiel. J'ai choisi le potentiel. Et le potentiel a fait de moi son permanent au Parlement des Transitions, à la Haute Autorité des Médias, la HAM, puis à la CI à l'époque, la Commission électorale indépendante. Je suis resté comme reporter au potentiel pendant plus ou moins 3 ans. J'ai quitté le potentiel fin 2004, début 2005. Je suis entré à Radio Okapi, d'abord comme journaliste traducteur pour le desk Swahili et Chiluba. Puis je m'occupais de la mise en onde de toutes les émissions qui passaient en fréquence modulaire. Après les ondes courtes, on m'a retenu comme reporter et Radio Okapi fera encore de moi son permanent au Parlement pendant quelques années. Puis je suis parti du Parlement pour m'occuper des informations judiciaires, ce qui fait de moi aujourd'hui chroniqueur judiciaire à Radio Okapi. Mais j'ai fait les médias chauds et les médias froids. J'ai fait la presse écrite où j'ai eu un long parcours, mais j'ai fait aussi la télévision. J'étais parmi les premiers recrutés de Lutu Mabangu, je crois, à la RTNC2, là où j'ai conçu l'émission L'invité du jeudi. Après la RTNC2, j'étais reporter aussi à Antena. De Antena, je suis allé à Tropicana TV. Et tout cela, je le faisais pendant que j'étais entre première et deuxième licence. J'ai donc étudié en même temps journaliste, cumulant dans plusieurs organes de presse. Et je suis resté quand même aujourd'hui dans un seul organe de Radio Okapi jusqu'à ce jour, où je m'occupe des reportages, des informations à caractère judiciaire. Je couvre tout ce qui se passe dans les cours et tribunaux. Je couvre aussi ce qui se passe au niveau des institutions politiques. Et je produis aussi le magazine Droit et Citoyenneté. Mon temps libre, je le passe entre ma famille, le divertissement, la lecture et la réalisation de certains projets dans le cadre du plan B. En matière de nourriture, je mange tout ce que Dieu a créé. Je n'ai pas d'interdit, rien ne m'est allergique à mon organisme. Mais j'ai une grande préférence en ce qui concerne les poissons. J'aime beaucoup les poissons. Dans tout ce que je mange, il ne faut pas que le poisson manque. Et il ne faut pas aussi que les légumes manquent. J'aime la musique douce. J'aime aussi chanter. Je suis un ancien choriste, un ancien scout. J'ai chanté dans une chorale catholique à Kamina. Donc, j'ai toujours eu cette nostalgie-là de toutes les chansons que j'ai connues pendant que j'étais choriste. Et je suis aussi nostalgique des vieilles gloires congolaises et internationales. Et sur le plan sportif, j'aime contempler le sport, surtout les compétitions internationales. Mais je pratique aussi les arts martiaux. Le week-end, je m'exerce. Je vais dans un fitness, soit je fais la marche. Après Radio Okapi, il y aura une autre vie, puisqu'on a connu une vie avant d'être à la Radio Okapi. Et on aspire quand même à être aussi patron de soi-même et aussi emploi sérieusement. Bon. Merci.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Okapi.
Notez que le 8 septembre, c'est la journée internationale de l'alphabétisation. Et c'est déjà la fin du Mag UN. On vous dit merci de votre fidélité à la mise en onde. Héritier Sidiakala, au micro, Tina Salama, Honoré Missenga Kalala, était la coordination, réalisation et reportage sous la supervision de Martin Sibujangwe. Portez-vous bien et à très bientôt sur Radio Okapi.